et de textes liturgiques pour cette fête de la Sainte Trinité, l'épître tirée de Saint Paul aux Romains, aux profondeurs des richesses de la sagesse et de la science de Dieu. Combien insondables sont ses jugements et impénétrables ses voies, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir de lui en retour, car c'est de lui et par lui et en lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Dans ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et soyez assurés que je suis tous les jours avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Veuillez vous asseoir. Alors je suis plein pour la prochaine retraite, la retraite du 7 juin au 12 juin. J'ai encore des places pour les deux dernières retraites de l'année, 13 septembre, 18 septembre et 18 octobre au 23 octobre. Donc demain, c'est la grande fête de Marie-Reine. On est ici à 10h pour ceux qui peuvent. Jeudi, c'est la fête de la fête Dieu. Donc en France, elle est solennisée quand on ne peut pas la solenniser le jour même. Elle est solennisée le dimanche suivant. Donc dimanche suivant sera la solennité de la fête du Sacré-Cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, saint Thomas d'Aquin nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, a voulu mettre une image de la Sainte Trinité dans l'homme lui-même, dans tous les hommes. Et il donne comme exemple l'intelligence, la volonté et le cœur. On peut changer un peu les termes en disant la connaissance, la compréhension, l'amour. L'intelligence nous donne la connaissance, la volonté nous donne la compréhension et le cœur nous donne l'amour du bon Dieu. Donc nous avons tous en nous cette image de la Sainte Trinité. Mais attention, si tous les hommes ont l'image de la Sainte Trinité, ce n'est pas dire qu'ils possèdent la Sainte Trinité. C'est un point essentiel. La possession de la Sainte Trinité en nous, l'habitation en nous de la Sainte Trinité, se fait par la vertu de charité. Rappelez-vous cette phrase très importante que nous avons dans le livre de la Genèse. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, je viens d'expliquer, la ressemblance de Dieu, c'est un degré supplémentaire. Donc pour avoir en nous la ressemblance de Dieu, il faut que la Sainte Trinité passe littéralement dans notre âme de la puissance à l'acte par l'acceptation de la vertu de charité, c'est-à-dire l'état de grâce. C'est quelque chose qui doit être pour nous une source de consolation extraordinaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en état de grâce, qui vit en état de grâce, a en lui l'habitation de la Sainte Trinité. Donc notre âme devient littéralement, on peut dire, une espèce de tabernacle vivant si nous sommes en état de grâce. Et ceci doit nous faire comprendre une autre chose, la gravité du péché. Pourquoi ? Parce que le péché mortel fait disparaître l'état de grâce. Donc littéralement, si j'ai le malheur de commettre une faute grave, j'ouvre la porte de mon tabernacle, de mon âme, je mets le bon Dieu dehors. Comme si j'ouvrais la porte du tabernacle, ici dans la chapelle, pour prendre le ciboire contenant les hosties consacrées, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, son corps, son sang, son âme et sa divinité, pour jeter au cochon les hosties consacrées. C'est la même chose. Il y a une trinité également chez le démon. Au lieu de l'amour, c'est la haine. Au lieu de l'intelligence, c'est l'ignorance. Au lieu de la volonté, c'est la malice. Et donc, quand je mets le bon Dieu dehors, je fais sortir la Sainte Trinité divine de mon âme et je remplace la Sainte Trinité du bon Dieu par la Trinité du démon. par la malice, par l'ignorance et par la haine. Et je pense que c'est ce qui me frappe le plus dans le monde moderne. S'il fallait caractériser le monde moderne, c'est ça. L'ignorance, fruit de l'orgueil, la malice des intelligences et des volontés, et la haine. La caractéristique de cette république dans laquelle nous vivons, c'est la haine de Dieu. D'où ce nom de république laïque. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, là, on entend souvent cette remarque, la Sainte Trinité n'est pas mentionnée dans l'Écriture sainte en nom. Peut-être pas en nom, mais en fait, oui. Allez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la Sainte Trinité. D'ailleurs, au début du livre de la Genèse, le Père de l'Église explique que lorsque le livre sacré explique « Faisons l'homme à notre image », c'est un pluriel. « Faisons » qui représente la Sainte Trinité. Un détail, j'ai lu quelque part, je n'ai pas de connaissance de l'hébreu, je regrette d'ailleurs parce que c'est utile pour un prêtre de parler l'hébreu, mais je ne suis pas assez malin pour avoir appris l'hébreu. C'est vrai qu'en hébreu, le mot qui représente la divinité est au pluriel. Mais le verbe qui suit ce mot pluriel est toujours au singulier. Encore une fois, c'est une image de la Sainte Trinité. Alors, il faut demander au bon Dieu cette grâce, un signe, de conserver en nous la Sainte Trinité. Conserver en nous la Sainte Trinité, c'est un mystère absolument insondable. Une substance divine, le Père est vraiment Dieu, le Fils est vraiment Dieu, le Saint-Esprit est vraiment Dieu, et en même temps, une séparation des personnes. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Donc on peut dire que Dieu nous a créés, on peut dire que Dieu nous a rachetés, mais on ne peut pas dire par exemple que la première personne de la Sainte Trinité est morte sur la croix le vendredi saint. On ne peut pas dire que la troisième personne de la Sainte Trinité s'est incarnée. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est incarnée. Mais on touche ici un mystère absolument insondable. C'est pour ça que Dieu peut dire « Je suis la voie, la vérité et la vie ». En philosophie, on dit « L'essence et l'existence sont identiques en Dieu ». Saint Thomas dit « L'être et l'unité sont convertibles en Dieu ». Nous, nous avons une intelligence. Nous avons une volonté. Dieu est, E-S-T, son intelligence. Dieu est, E-S-T, sa volonté. Des choses qui nous dépassent, évidemment, parce qu'avec notre petit cerveau, gros comme un pois chiche, comment voulez-vous que nous puissions comprendre ces mystères absolument insondables? Alors, essayons de creuser un petit peu ce mystère de la Sainte Trinité qui a été tellement bien expliqué, au moins autant que c'est possible ici-bas, par saint Thomas d'Aquin. Vous savez, je vous l'ai souvent déjà dit, qu'après avoir écrit son traité sur la somme théologique, de la somme théologique sur la Sainte Trinité, Dieu lui est apparu, disant « Thomas, tu as bien écrit de moi. Tu as bien écrit de moi. » Alors essayons d'approfondir un petit peu. Je crois qu'il est important aujourd'hui de ne pas séparer les choses. On a trop tendance à découper un peu la foi catholique comme des rondelles de saucisson, à les séparer les unes des autres. Par exemple, il faut unir Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut unir Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, l'incarnation, la rédemption. Et il faut même unir Dieu, l'incarnation, la rédemption, notre Seigneur Jésus-Christ, avec le corps mystique du Christ, qui est l'Église catholique. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Je crois en Dieu, je ne crois pas en notre Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce qu'il est possible de croire en Dieu sans croire en notre Seigneur Jésus-Christ? Non. Les musulmans, par exemple, prétendent croire en Dieu. Si vous demandez à un musulman « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Ils vont dire « Oui. » Mais si vous leur posez la question « Est-ce que vous croyez en la Sainte Trinité ? Est-ce que vous croyez en l'incarnation ? Est-ce que vous croyez en la rédemption ? Est-ce que vous croyez en l'Église catholique ?» Ils vont vous dire « Non. » Si vous demandez à un juif, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils vont dire oui. Est-ce qu'un juif croit en la Sainte Trinité? Bien sûr que non. À tel point que la loi juive adaptée pour les non-juifs, qu'on appelle les lois noachides, je crois que c'est ce qu'on dit en français, les lois noachides, une des conditions, c'est le refus de la Sainte Trinité. Une deuxième condition, c'est le refus du mystère de l'incarnation. Vous voyez, donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Il y a beaucoup, beaucoup de confusion aujourd'hui, parce que les gens, justement, font des séparations qu'ils ne doivent pas faire. Certes, il faut séparer la première de la deuxième, de la troisième personne dans la Sainte Trinité, qui sont trois personnes différentes, mais c'est la même substance. Alors, on entend ça extrêmement souvent. On entend, par exemple, beaucoup de gens qui disent « Moi, je crois en Dieu. Je crois en la Sainte Trinité. Je crois en notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois pas en l'Église. » Est-il possible de dire je ne crois pas en l'Église catholique et en même temps de dire je crois en Dieu? Et non. Parce que Dieu a créé l'Église. Donc si je crois, par exemple, autre exemple que je vous donne souvent, imaginez quelqu'un qui dit je crois en tous les dogmes de la foi, sauf un. Si je nie un seul dogme de la foi catholique, je nie l'intégralité de la foi catholique. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas séparer les dogmes. On ne peut pas séparer les dogmes parce que l'Église catholique est le corps mystique du Christ. Et qu'il n'y a pas de différence de dire Dieu nous a menti sur tout son enseignement ou Dieu nous a menti sur 1% de son enseignement. Parce que si je dis que Dieu nous a menti sur 1% de son enseignement, je suis obligé de conclure que Dieu n'est pas Dieu puisqu'il a menti. Alors, il faut faire attention à une phrase qu'on entend beaucoup trop souvent. Je l'ai même entendue de prêtres qui se présentent traditionnalistes. Des gens qui parlent par exemple, on entend ça extrêmement fréquemment, beaucoup trop, qui disent qu'il y a trois grandes religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islamisme. Mais c'est faux! On peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que quand vous dites il y a trois grandes religions monothéistes, trois grandes religions qui n'adorent qu'un seul Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des gens qui entendent cette phrase vont dire, les chrétiens, les juifs et les musulmans adorent le même Dieu. Or, je viens de vous expliquer que le Dieu des musulmans n'est pas le vrai Dieu, puisque ce n'est pas un Dieu qui s'est incarné, ce n'est pas un Dieu trinitaire. Le Dieu des juifs n'est pas le vrai Dieu, puisqu'il refuse l'incarnation, qu'il refuse l'Église, qu'il refuse le mystère de la Sainte Trinité. Donc, il ne faut pas dire, c'est beaucoup trop dangereux de dire et de prétendre qu'il y a trois grandes religions monothéistes. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'une seule Église. Donc il y a un seul Dieu et une multitude de faux dieux. Il y a une véritable Église et une multitude de fausses Églises. Est-ce qu'il est possible de dire nous sommes l'Église et en même temps de rejeter ce que l'Église catholique a enseigné, le magistère éternel de l'Église, le magistère infaillible de l'Église, pendant 20 siècles? N'oubliez pas qu'il y a aujourd'hui une église qui se prétend être la véritable église, l'église de Vatican II, et qui prétend être église du Christ, tout en rejetant soigneusement ce que l'église catholique a fait pendant 20 siècles et a enseigné pendant 20 siècles. Est-il possible de mettre les deux choses dans la même assiette? C'est absolument impossible. Alors aujourd'hui, pourquoi il y a tellement de confusion? Parce que, pardon, il y a tellement de choses qui nous sont tombées dessus, littéralement, depuis la mort du pape Pie XII en 1958. Que ces confusions sont rentrées dans les cervelles. Et encore une fois, j'ai entendu des prêtres de la tradition dire il y a trois grandes religions monothéistes. C'est faux. Pareil, il y a un autre terme qui est extrêmement dangereux, faire attention aux termes qu'on utilise. On parle du christianisme, par exemple. Le christianisme, c'est un mot français, c'est un grand sac de poubelle, un cœur de n'importe quoi. Il y a, je crois, officiellement 300, 350 sectes protestantes, par exemple. Les sectes protestantes, elles sont chrétiennes? Dans le sens, les sectes protestantes croient au Christ? De toute façon, le Christ est Dieu. Vous demandez à un protestant, est-ce que vous croyez au Christ? Oui. Vous croyez en Dieu? Oui. Vous croyez en l'incarnation? Oui. Vous croyez à la Sainte Trinité? Oui. Vous croyez à la rédemption? Oui. Vous croyez en l'Église catholique? Ah non. C'est ce que je viens de vous expliquer au début de ce sermon. Si je prétends croire en l'incarnation, la rédemption, la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ, mais que je nie son Église, je ne crois pas en Dieu. Donc, strictement parlant, le Dieu des protestants n'est pas le Dieu catholique, parce que justement, on refuse, en quelque sorte, la continuation de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre par l'Église. L'Église, c'est quoi? La véritable Église, il n'y en a qu'une, une sainte catholique et apostolique. C'est la continuation de la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption, par la Sainte Messe, par le sacrement de la Sainte Eucharistie. Vous voyez comme toutes ces choses sont importantes. Mais je dis une confusion énorme. Il y a d'abord eu Vatican II, 1962-1965. On a commencé à tout mettre sans dessus-dessous. C'est l'introduction de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Monseigneur Lefebvre nous disait, c'est la démocratisation de l'Église. C'est-à-dire, l'autorité vient de l'homme, vient plus de Dieu. Au lieu d'enseigner les droits de Dieu, on enseigne les droits de l'homme. Et donc, c'est la liberté religieuse, c'est l'écuménisme, c'est la collégialité. C'est l'introduction de la trilogie révolutionnaire de liberté, d'égalité, de fraternité. Ça commençait déjà à mettre les cervelles catholiques sans dessus-dessous dans nos crânes. Immédiatement après, qu'est-ce qu'il y a? Une fois que cette pagaille a été organisée sciemment, arrêt 68. 1968, c'est quoi? On change le rituel dans l'église de Vatican II, on change le rituel d'ordination des prêtres, qui avait 2000 ans, pour mettre un doute sérieux sur la validité des ordinations sacerdotales opérées avec ce nouveau rituel de 68. Et pour être sûr qu'il va encore enfoncer le coup un peu plus loin, les modernistes ont même changé le rituel de consécration des évêques. Deuxième doute. Donc premier doute mis par Vatican II, deuxième doute, changement du rituel d'ordination des prêtres, troisième doute, changement du rituel de la consécration des évêques. Et l'année suivante, qu'est-ce qu'on fait? 1969, nouveau culte, la nouvelle messe. Résultat des courses, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On a deux églises différentes. Une église qui croit en l'incarnation, qui croit en la rédemption, qui croit en la Sainte Trinité. Église corps mystique du Christ, qui croit en l'infaillibilité du pape dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire. Et on a une nouvelle église centrée sur l'homme, au lieu de centrée sur Dieu comme l'église catholique, qui est l'église de Vatican II. Donc une des plus grandes erreurs intellectuelles qu'on puisse commettre aujourd'hui, avec des conséquences morales énormes, c'est de prétendre que l'Église catholique et l'Église de Vatican II sont une seule et même Église. Vous voyez, comme il est important de penser droit, réapprendre à penser droit. On a une telle confusion aujourd'hui au niveau de nos intelligences que les gens ne sont plus capables de penser droit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles sont les conditions pour penser droit? Est-ce qu'il est possible de penser droit sans la foi? Strictement parlant, oui. Puisque tous les hommes ont une intelligence. Et l'objet de l'intelligence, même pour un païen, l'objet de l'intelligence, c'est quoi? C'est le vrai. Donc on peut arriver à prouver l'existence de Dieu, l'existence d'une âme, sans la foi catholique. Mais on est tellement contaminé par cette démocratisation de la société, par ce laïcisme révolutionnaire qui est partout, que dans la pratique, les gens sont incapables de penser droit. Donc quand les gens viennent me voir, ça arrive d'avoir des non-catholiques qui m'écrivent ou qui me contactent par un message en me disant « Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire pour essayer de penser droit? Je ne suis pas encore baptisé, je ne suis pas encore catholique. Qu'est-ce que je dois faire pour penser droit ?» Je vais l'écouter. Première condition, débranchez votre télévision. Si vous débranchez votre télévision, vous avez débranché le lavage de cerveau organisé par les ennemis de l'Église. Et après, petit à petit, il est possible de penser droit. Et pour les catholiques, c'est pareil. Est-ce qu'il est possible pour un catholique, une famille catholique qui regarde encore régulièrement la télévision, c'est un exemple, la télévision, eh bien, non, il n'est pas possible pour un catholique, une famille catholique, de regarder régulièrement la télévision quand c'est la foi. Parce qu'il va se faire contaminer. Vous voyez comme toutes ces choses sont fondamentales. Conserver la foi. Conserver la foi, pas simplement pour soi-même. Attention, conserver la foi pour la transmettre. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la transmission. Et soyez assurés que je suis tous les jours avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Notre Seigneur parle à Saint-Pierre. Je suis avec vous tous les jours. Il n'est pas simplement avec le pape lorsque le pape, une fois tous les 150 ans, promulgue un dogme nouveau. Il est avec le pape tous les jours, ce qu'on appelle le magistère ordinaire universel. Et le Concile Vatican I, 1870, enseigne de façon infaillible que le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire universel. Chose qui est niée, par exemple, par tous les prêtres traditionnalistes de la Fraternité Saint-Pélagie. C'est gravissime. Alors, si nous acceptons l'enseignement de l'Église catholique, on est obligé de tout accepter. On accepte l'incarnation, la rédemption, la Sainte Trinité, le corps mystique du Christ représenté par la Sainte Église catholique, parce que tout ça ne fait qu'un. On ne peut pas séparer les choses. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire, c'est tout le travail de corruption des intelligences organisé par Bergoglio dans l'Église de Vatican II, on essaie de nous faire croire qu'on peut nier l'incarnation, on peut nier la rédemption, on peut nier l'Église catholique, on peut nier l'importance de l'état de grâce, tout en restant enfant de Dieu. Et donc tout le monde va au ciel. C'est la thèse complètement fausse de la rédemption universelle. C'est déjà enseigné dans Vatican II. Par son incarnation, Dieu s'est uni à tous les hommes. Donc on est tous enfants de Dieu par le fait que nous avons la nature humaine. Comme on ne peut pas perdre notre nature humaine, on ne peut pas perdre le caractère d'enfant de Dieu qui est en nous, par la nature humaine, et donc on est tous en état de grâce, on reste tous en état de grâce et tout le monde va au ciel, sauf les traditionnalistes. C'est l'enseignement moderne. Alors, il faut s'accrocher, mes bien chers frères, s'accrocher à notre catéchisme. S'accrocher à notre catéchisme, s'accrocher au catéchisme du Concile de Trente, au catéchisme de Saint-Pélagie, s'accrocher à Sainte Thérèse de Saint Thomas d'Aquin, s'accrocher au magistère de l'Église des grands papes du 19e et du début du 20e, jusqu'à la mort du pape Pie XII, pour enseigner, garder l'enseignement de la foi. Même si on ne comprend pas tous les détails. Bon, après, vous pouvez creuser. Par exemple, Saint Thomas d'Aquin a creusé. En tant que faire se peut, il a creusé le mystère d'incarnation. Il dit des choses extraordinaires. Je ne vais pas vous donner un cours de théologie parce que ce n'est pas le moment. Mais saint Thomas d'Aquin explique qu'il y a une substance, substance divine, la même pour le Père, la même pour le Fils, la même pour le Saint-Esprit, qu'il y a dans la Sainte Trinité deux processions, procession de l'intelligence, procession de la volonté. Procession de l'intelligence, c'est la génération du Verbe. Procession de la volonté, c'est l'aspiration du Saint-Esprit. Qu'il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'il y a quatre relations qui permettent une différenciation des personnes dans la substance unique. Relation de paternité, le Père engendre éternellement le Fils. Relation de filiation, le Fils est éternellement engendré par le Père. Relation de spiration, le Père et le Fils spirent le Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'amour constant du Père et du Fils va provoquer éternellement l'arrivée du Saint-Esprit. De toute éternité. Et le Saint-Esprit, lui, procède, donc relation de procession, procession du Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils. Et saint Thomas rajoute à ces quatre relations, il appelle ça maintenant les notions, la notion d'inascibilité, c'est-à-dire le Dieu n'est jamais né, il a toujours été, puisqu'il est éternel. Bon, si vous ne comprenez pas très bien la notion d'inascibilité ou la différence qui existe entre l'aspiration active et l'aspiration passive, je ne vais pas en parler, vous pouvez aller au ciel quand même, ne vous inquiétez pas. Mais il faut accepter par avance l'enseignement traditionnel de l'Église. Alors accrochons-nous, mes bien chers frères, accrochons-nous à la foi catholique. Prions notre Sainte Vierge Marie. Elle est reine de la foi, hein. C'est elle qui protège la foi. Demain, c'est la fête de Marie-Reine. Le pape Pie XII a voulu que le dernier jour du mois de Marie soit consacré à notre Sainte Vierge Marie, la grande fête de Marie-Reine, demain, le 31 mai. Prions aussi aujourd'hui Sainte Jeanne d'Arc. Comme ici en France, la fête de Sainte Jeanne d'Arc est solennisée le deuxième dimanche du mois de mai, comme nous l'avons fait. Le 30 mai, c'est le jour de son martyr. Elle est morte le 30 mai 1431 à Rouen. Dieu sait si on a besoin de la protection de Sainte Jeanne d'Arc. Oh là là, comme nous aurions besoin d'une autre Sainte Jeanne d'Arc. Mais ceci doit aussi nous donner une espérance extraordinaire. Si Dieu a suscité Sainte Jeanne d'Arc, cette petite jeune fille de 17 ans, il y a au 15e siècle, il est parfaitement capable d'aller tirer de sa manche encore quelque chose, un instrument tout à fait humainement parlant, qui soit quelque chose de tout à fait insignifiant, mais le bon Dieu utilise des choses insignifiantes pour sa gloire. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie, demandons à Sainte Jeanne d'Arc cette grâce de ne pas nous décourager. Vous voyez, lorsqu'on étudie un petit peu la foi catholique, lorsqu'on étudie notre catéchisme, on se rend compte que l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ est éternel, parce qu'il est Dieu. Souvent, on entend des bêtises énormes, même parfois de la part de catholiques. Ah, mais il faut adapter l'enseignement de l'Église catholique au monde moderne. Mais pas du tout. Il faut adapter le monde moderne à l'enseignement catholique et pas l'inverse. C'est ça qui est bien avec la foi catholique, il n'y a pas besoin de changer de livre toutes les 5 minutes. Vous prenez le catéchisme du Concile de Trente, il va prendre une rite, pourtant il date du XVIe siècle. C'est Saint Pie V qui l'a fait publier. Prenez le catéchisme de Saint Pie X, qui est une simplification du catéchisme du Concile de Trente, 1910 par Saint Pie X, pas pris une ride, mais étudiez-le, votre catéchisme. Prenez le temps, ayez la volonté d'étudier votre foi. C'est absolument capital. Et sinon, eh bien, on risque petit à petit de voir notre intelligence devenir comme une, si vous voulez, une espèce d'éponge toute sèche, et qui ne peut plus remplir son office parce que justement l'humidité de la grâce sanctifiante a disparu de nos intelligences. Alors, ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères, mais demandons à la très Sainte Vierge Marie, demandons à Sainte Jeanne d'Arc de nous aider à toujours conserver la foi, parce que sans la foi, il n'y a pas de salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.